Chapitre 20. L'amour ne conduit pas toujours au bien. En se réveillant, le fermier ne fut pas étonné de voir Müller endormi à côté de lui. Mais quand celui-ci ouvrit les yeux et qu'il apprit que Henri était parti, il jura entre ses dents de ce qu'à son âge, les femmes lui faisaient encore faire des sottises et oublier son devoir, puis se prépara à courir sur les traces de son élève. « Dame, disait le fermier, c'est pas étonnant que vous ayez dormi si longtemps. J'avais au but sec hier soir. »« C'est vrai, répondit Müller, mais aussi vous avez du vin hein, qui porte diablement à la tête. » La fermière descendit, et Müller, craignant que sa vue ne vînt encore lui remettre le diable au corps, s'empressa de monter à cheval. Le fermier l'engagea à venir souvent trinquer avec lui, et la fermière joignit ses instances à celles de son mari. Müller arriva au château peu de temps après Henri. Il se disposait déjà à aller le chercher dans les environs, lorsqu'il aperçut venir de son côté, et en entendant les dernières paroles de Henri, il se douta de ce dont il s'agissait, sans pourtant connaître la cause de son désespoir. « Où allez-vous, monsieur ? » dit-il à Henri en l'arrêtant. « Au château, Müller. Pourquoi faire ? Pour la voir. Vous n'irez pas, vous dis-je. Oh, mon ami, elle est mourante. »«
Mourante ? C'est un peu fort. Est-ce vrai, Franck ? » ?»«
Oui, monsieur Müller, c'est la vérité. »«
Oh, je vais m'en assurer par moi-même. Mais il est inutile que vous me suiviez. » Si elle est telle que vous me le dites, vous ne pourrez la rappeler à la vie. Et si elle est moins mal, au contraire, votre vie renouvellera son chagrin, sans y apporter de soulagement.
Mon Müller, laisse-moi te suivre.
Monsieur, vous oubliez que c'est de votre sœur qu'il s'agit, et que votre conduite n'est pas telle qu'elle devrait être.
Mais malgré toutes tes remontrances, je ne m'éloignerai de ce château que lorsque je serai certain de son sort.
Dit Müller en lui-même. Oh, il faut rompre cet amour-là, à quelque prix que ce soit. Allez m'attendre chez le jardinier au bout du parc, dit-il à Henri. J'irai vous y retrouver et vous apprendre ce que vous voulez savoir à toute force. Henri n'osa résister et suivit Franck, qui le conduisit à la maisonnette de son père, située à l'autre extrémité des jardins et assez éloignée du château. Quant à Müller, il regarda aller Henri, se repentant de la faiblesse qu'il avait eue de le laisser venir au château de Framberg et cherchant dans sa tête par quel moyen il pourrait l'en arracher. Henri attendait le retour de Müller dans une anxiété difficile à décrire. Cependant, les heures s'écoulaient et le hussard ne revenait pas. Henri, voyant la nuit s'approcher, ne put résister à son inquiétude. Il envoya Franck au château afin de savoir la cause de ce retard. Franck venait de partir lorsque Henri vit quelqu'un s'approcher de l'endroit où il était. Malgré l'obscurité, il crut reconnaître Müller et vola à sa rencontre. Oh, il ne se trompait pas, c'était notre hussard. « Eh bien, Müller, lui dit Henri en le reconnaissant, qu'as-tu donc fait si longtemps au château ?»«
Rien. » répondit Müller d'une voix sombre, en continuant à marcher vers la maison du jardinier.
« Au nom du ciel, instruis-moi de ce qui s'est passé. Dans quel état as-tu laissé Pauline ?»«
Elle n'a plus rien à craindre. »«
Que veux-tu dire ? Parle. Ton silence me glace d'effroi. »«
Vous le voulez ? Eh bien, armez-vous de courage. Votre sœur... « Votre sœur n'est plus. »
Henri n'en entendit pas davantage. Il tomba privé de sentiments.
« Alors là, la crise est forte, dit Müller, mais elle en durera moins. »
Et il s'occupa du soin de rappeler Henri en la vie. Aidé du jardinier, qui accourut à ses cris, il le transporta dans la maisonnette et le mit au lit. Le jeune homme ne rouvrit les yeux que pour retomber dans un état plus alarmant que celui d'où il sortait. Une fièvre ardente s'était emparée de ses sens. Un délire effrayant avait remplacé sa raison. Il ne voyait, il ne reconnaissait plus personne. Müller, effrayé de l'état de Henri, se cognait la tête, s'arrachait les cheveux, et paraissait s'attribuer à lui seul la cause du mal qui accablait son élève. Notre héros resta 5 jours dans cet état, et Müller ne passa tout ce temps auprès de son lit. Enfin, la nature plus forte que le mal rappela Henri à l'existence, et le 6e jour, il recouvra sa raison, et avec elle un peu plus de tranquillité. « Ouf, voilà la crise passée !» dit Müller en voyant Henri plus calme. « Ma foi, elle a été rude, et si vous aviez succombé, je n'avais plus d'autre parti à aller prendre que d'aller tenir compagnie aux grenouilles qui sont dans les fossés du château. Mais vous revenez à la vie, et je me sens soulagé d'un boulet de 36 que j'avais là sur la poitrine. « Mon pauvre Müller, » dit Henri en souriant, « combien je te cause de chagrin. Bon, recouvrez la santé, le courage surtout, et je serai payé de mes peines. » Henri promit tout, et Müller l'embrassa en pleurant de joie. Henri fut encore 15 jours sans pouvoir quitter le lit. Müller ne perdait pas de vue son élève, mais Henri demandait quelquefois où était Franck, et pourquoi il ne le voyait jamais auprès de lui. « Je dis à Franck d'aller nous chercher une bonne voiture pour nous emmener quand vous serez en état de partir. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas ici. D'ailleurs, est-ce que vous n'êtes pas satisfait de mes soins que vous demandez votre domestique ?»« Oh, que tu es injuste, mon cher Müller. Si je demande Franck, c'est afin que tu puisses à ton tour prendre le repos dont tu as besoin. » Soyez tranquille, mon repos à moi, c'est votre santé. Je serai plus malade quand vous vous porterez bien. Bon, Müller. Lorsque Henri fut en état de sortir un peu, Müller le conduisit dans la campagne par une petite porte qui était à 2 pas de la maison du jardinier. Pourquoi sortons-nous du château? Disait Henri à Müller. Parce que la vue de la campagne vous distraira davantage que celle d'un parc que vous avez parcouru 100 fois. Mais Müller, je l'aurais revu avec tant de plaisir. Non, monsieur, cela vous aurait affecté, vous n'irez pas. Henri n'osait résister. Mais cependant, il sentait au fond de son cœur le plus vif désir de revoir les lieux qu'il allait quitter de nouveau, et peut-être pour bien longtemps. Lorsque Müller crut voir que Henri était assez fort pour se mettre en voyage, il lui annonça que dans 2 jours, il quitterait le château. « Franck est donc de retour ?» dit Henri. « Oui, et la chaise de poste nous attendra devant la petite porte qui est ici près et qui donne sur la grande route. »« Quoi, nous ne sortirons pas par le château ?»« Vous voyez bien que cela est inutile. » Henri n'osa répliquer, mais il se promit bien de ne pas partir sans avoir visité pour la dernière fois l'asile de son enfance. La veille du jour fixé pour leur départ, Müller, qui était accablé par la fatigue, engagea Henri à se coucher de bonne heure, afin d'être plus tôt éveillé le lendemain matin. Henri, qui avait déjà son projet en tête, feignit de consentir au désir de Müller. Notre hussard se coucha et ne tarda pas à s'endormir profondément. Lorsque Henri fut certain qu'il ne songeait plus à lui, il se leva avec précaution, sortit doucement de la chaumière et prit le chemin du château. La soirée était superbe. Un clair de lune magnifique répandait sur toute la nature une teinte bleuâtre, et l'œil, en se fixant sur un bosquet, sur un arbrisseau, croyait distinguer une ombre immobile, une figure bizarre. C'est alors que 1000 objets frappent notre vue, troublent notre imagination et ne sont pourtant produits que par le reflet de l'astre de la nuit. Henri marchait d'un pas tremblant. Son esprit, affaibli par sa maladie, enfantait 1000 visions. À chaque objet qu'il rencontrait, son cœur battait avec force. Un secret pressentiment semblait l'avertir que quelque chose d'extraordinaire allait s'offrir à sa vue. Il parvint enfin dans la partie des jardins qui était tout près du château. Ne pouvant plus maîtriser son agitation, il entre dans un bosquet pour s'asseoir un moment et reprendre un peu de calme. Mais quelque chose frappe ses regards. Sur le banc où il veut se reposer, il distingue une ombre blanche qui paraît immobile et ne s'aperçoit pas de sa présence. Henri ne peut commander à son émotion. Il est forcé de s'appuyer contre un arbre. Il cherche à surmonter sa faiblesse. Mais l'ombre se lève, s'avance lentement vers lui. Un rayon de la lune donne sur sa figure. Il la reconnaît. « Ombre de ma Pauline » s'écrie-t-il en tombant à genoux devant elle. « Aurais-tu quitté le séjour céleste pour venir visiter celui qui ne peut plus désormais être heureux sur une terre que tu habites plus avec lui ?»« Henri !» dit une voix faible. Et Pauline, car c'était elle, tombe sans connaissance devant son amant. « Grand Dieu !» s'écrie Henri, « est-ce une illusion ?» Mais non, mais c'est bien elle, c'est ma Pauline. Le ciel, touché de mon désespoir, me l'a rendue pour ne plus m'en séparer. Henri s'empresse de secourir son amante. Pauline ouvre les yeux. Elle reconnaît Henri, elle lui sourit tendrement. Elle est dans les bras de celui dont elle s'est crue séparée pour toujours. Henri, au comble de la joie, la presse contre son cœur, la couvre de baisers. Pauline, loin de repousser ses transports, se livre à toute sa tendresse, et ils oublient tous deux les liens qui les unissent pour ne plus songer qu'à l'amour qui les égare et les entraîne dans l'abîme qu'ils n'ont plus eu la force d'éviter. Le repentir subit de près la faute, mais cette faute-là n'était pas de celle qu'un amant fait oublier par de nouvelles caresses. Henri, effrayé de l'énormité de son crime, n'ose plus lever les yeux sur celle dont il a causé la perte. Pauline pleure, gémit et reste privée de sentiments sur le gazon, témoin de sa défaite. Henri ne songe pas à secourir celle qui l'a mise dans cet état. Il fuit avec rapidité le fatal bosquet, s'enfonce dans le parc, gagne la campagne, et disparaît du château avant que le soleil vienne éclairer son forfait. Pauvre Pauline, qui donc viendra sécher tes larmes, calmer ton désespoir? Il te quitte, celui qui seul pourrait alléger tes souffrances. Il te quitte en jurant de ne te revoir jamais. Mais le ciel prendra pitié de tes maux. Il t'enverra un ami, un consolateur, dans le moment où tu murmures contre la providence et contre la rigueur de ta destinée. Et avant tout, il est bon d'expliquer au lecteur comment Pauline, qui passait pour morte, s'était trouvée avec Henri dans le jardin. Nous avons vu combien Müller ne fut contrarié de ce que Henri ne voulait pas s'éloigner du château pendant la maladie de sa sœur. Le bon hussard vit bien que le jeune homme conservait toujours dans le fond de son cœur une passion qui devait faire le malheur du reste de sa vie, et il résolut de l'éteindre par quelques moyens violents. En apprenant la maladie de Pauline, il lui vint aussitôt dans l'idée de la faire passer pour morte. Il se rendit donc auprès de la jeune malade, pour s'assurer d'abord de sa situation. Il trouva Pauline fort mal et pensa que ce qu'il avait imaginé comme un mensonge pourrait bien devenir la vérité. Néanmoins, il ne voulut pas attendre l'événement, et le même soir, il se rendit auprès de Henri. Nous savons comment il mit son projet à exécution. Cependant, malgré la douleur qu'il s'attendait à voir éclater, il ne croyait pas que sa ruse produirait un effet si violent. Et lorsqu'il vit son cher Henri aux portes du tombeau, il se repentit du moyen qu'il avait employé pour le guérir de son amour. Enfin, Henri recouvra la santé et Müller commença à respirer. Pendant la maladie de Henri, Müller n'avait appris par Franck que Pauline était presque entièrement rétablie. Mais comme la crise était passée, il ne voulut pas instruire Henri de cette nouvelle et résolut de l'entretenir dans une erreur
qui devait lui rendre le repos. Voilà pourquoi il eut soin d'éloigner Franck de son maître en empêchant Henri de se promener dans le château. Le projet de Müller était bien conçu, mais le destin ne permit pas qu'il reçût son exécution. Pauline, qui depuis quelques jours allait prendre l'air dans les jardins du château, attirée par la beauté de la soirée, était allée s'asseoir sous un bosquet touffu et avait oublié dans ses réflexions que l'heure de se retirer était passée depuis longtemps. Et nous avons vu comment le diable s'y prit pour réunir les deux amants et pour renverser en une minute tous les plans de notre hussard. Mais Müller ne pouvait pas toujours dormir. Le souvenir du voyage qu'ils vont entreprendre l'éveille à la pointe du jour. Il se lève, il s'habille et court au lit de Henri pour savoir s'il a bien passé la nuit. Quel est son étonnement, son inquiétude, en ne voyant plus Henri dans la chaumière. « Allons, dit-il, bon, je l'avais encore fait les siennes. Ne perdons pas de temps et mettons-nous vite sur ses traces. » Et déjà, Müller est dans le parc qu'il parcourt dans tous les sens. Enfin, le hasard le conduit dans le bosquet fatal. Il croit de loin distinguer quelque chose. Il approche et voit Pauline étendue sur la terre et privée de sentiments. Notre hussard ne s'amuse pas à faire des conjectures. « Oh, le diable s'en mêle, dit-il, ils se sont vus, parler, et l'action a été chaude, à ce qu'il me paraît. Mais où est donc mon élève ?» En attendant, Müller ne charge Pauline sur ses épaules et prend le chemin du château. Tout le monde dormait encore, mais au tapage qu'il fait, on est bientôt sur pied. Les domestiques viennent dans chemise savoir ce qu'il y a de nouveau. Allons, mille bombes, mes amis, il faut vous mettre tous en campagne et sur le champ. Votre jeune maître a le diable au corps. Je vois bien qu'il est inutile de vous le cacher plus longtemps. Allez, courez sur ses traces. Que chacun se mette en route et qu'on le ramène, fut-il au bout du monde. J'irai bientôt moi-même me joindre à vous. En finissant ces paroles, Müller les pousse les uns sur les autres dans la campagne. Quelques-uns veulent faire les mutins et observent qu'ils ne peuvent s'éloigner en chemise. Mais Müller les met à la porte un coup de pied dans le derrière et personne ne résiste à ce dernier argument. Après avoir mis ses ambassadeurs en campagne, Müller s'empressa de retourner auprès de Pauline et de lui prodiguer tous les secours que réclamait sa situation. Après bien des peines, il parvint à lui faire ouvrir les yeux. « Henri !» fut le premier mot qu'elle prononça. Ensuite, elle aperçut avec étonnement Müller à ses côtés. « Oui, je vois bien que vous êtes surprise de me voir, lui dit notre hussard. Mais je vous assure que de mon côté, j'aimerais autant être à 100 lieues de vous. Mais enfin, Franck avait bien raison de dire qu'il y a une destinée. » Pauline ne comprit pas grand-chose à ce discours. Mais Müller lui expliqua ce qu'il voulait dire et la manière dont il l'avait trouvé dans le bosquet. « Et Henri, qu'est-il devenu ?» demanda Pauline. « Oh, il aura craint mes remontrances et il a pris la fuite. Il doit pourtant savoir que, malgré mon air sévère, je n'ai pas un cœur de rocher. » Mais Müller ne se doutait pas encore de l'énormité de la faute de Henri. Après avoir essayé de consoler Pauline, il la laissa dans son appartement pour aller à la recherche du fugitif. Pauline, lorsqu'elle fut seule, donna un libre cours à ses larmes. Elle craignait et désirait en même temps que Müller ne parvint à ramener Henri. Quelquefois la raison et le devoir lui faisaient appréhender son retour. Mais l'amour, plus fort que tout déraisonnement, reprenait toujours le dessus et finissait par l'emporter. Cependant, Müller et tous les domestiques revinrent au château sans apporter aucune nouvelle de Henri. Le lendemain, même perquisition, sans avoir plus de succès. Les jours, les semaines s'écoulèrent et Henri ne revint pas. Müller ne perdait pas courage et faisait quelquefois des absences de 8 jours dans l'espérance d'être plus heureux, mais lorsque 2 mois furent écoulés,
Il commença à perdre patience et envoya au diable celui qu'au fond du cœur il désirait tant retrouver. Mais enfin, pourquoi cette fuite? Disait Müller à Pauline lorsqu'ils étaient seuls ensemble. Je lui avais défendu de vous voir, c'est vrai, mais je lui avais pas conseillé de devenir fou. Pauline baissait les yeux et ne répondait rien. Müller, voyant que ces questions ne faisaient que redoubler son chagrin, changeait de conversation et s'efforçait de la distraire. La pauvre enfant paraissait effectivement avoir grand besoin de distraction. Oh, ce n'était plus Pauline telle qu'elle était un an auparavant, si fraîche, si jolie, et dont les yeux brillants annonçaient le plaisir et la santé. Ses larmes en avaient terni l'éclat. Son teint pâle et flétri trahissait les souffrances de son âme, et tout en elle annonçait une victime de l'amour. Plus le temps s'écoulait, plus le chagrin de Pauline semblait augmenter. Elle passait les journées entières enfermée dans son appartement ou à pleurer au fond d'un bosquet solitaire. Müller, présumant que c'était la peine qu'elle éprouvait de la fuite d'Henri, notre beau hussard n'était guère plus gai qu'elle et fort peu en état de la consoler. Un soir, que Müller était sorti du château pour respirer l'air frais de la campagne, il aperçut de loin une femme dont la démarche précipitée annonçait quelques desseins extraordinaires. « Oh oh !» dit Müller, « quelle est cette femme ?» L'obscurité de la nuit l'empêchait de la reconnaître, mais il résolut de la suivre afin de satisfaire sa curiosité. L'inconnue traversa rapidement un petit bouquet de bois qui conduisait au bord d'un étang situé à peu de distance du village. Elle prenait les sentiers les plus détournés, paraissait craindre d'être aperçue et s'arrêtait de temps à autre comme pour écouter si elle n'était pas suivie. Müller, alors, se tenait caché derrière un arbre, retenait son haleine et ne faisait pas le moindre mouvement. C'est de cette manière qu'ils arrivèrent tous deux au bord de l'eau. Alors l'inconnu s'arrête sur une espèce de monticule qui dominait l'étang et se met à genoux. Müller s'arrête aussi de son côté. Une secrète terreur s'était emparée de ses sens. Bientôt une voix plaintive fait entendre les paroles suivantes. « Oh mon Dieu, pardonnez-moi l'action que je vais commettre. Prenez pitié de mon désespoir. » Et n'accablez pas de toute votre colère celui qui a partagé mon crime et pour lequel je sacrifie l'existence que je n'ai plus la force de supporter. » Müller n'en entendit pas davantage. Ayant reconnu la voix, il courut vers celle qu'il voulait sauver. Mais il n'était plus temps. Pauline, car c'était elle, s'était déjà précipitée au milieu des eaux. Notre hussard, sans perdre un seul instant, jette de côté son bonnet, sa veste, tout ce qui aurait pu l'embarrasser. Ensuite, se jetant à la nage, il parvient à atteindre l'infortuné qui allait périr, la saisit avec force, la ramène vers le rivage et remercie le ciel d'avoir secondé son entreprise. Müller avait étendu Pauline sur la terre, mais elle était inanimée et son état demandait de prompts secours. Comment faire, cependant? Il était tard, tous les villageois étaient livrés au repos. Il n'y avait qu'un parti à prendre, celui de retourner au château. Ils en étaient fort éloignés, et le bon hussard se sentait harassé par toutes les secousses qu'il avait éprouvées. Mais le désir de faire une bonne action lui rendit toutes ses forces. Il mit Pauline sur ses épaules, et, chargé de ce précieux fardeau, prit avec courage le chemin du château. Après une heure d'une marche fatigante, Müller vit enfin le terme de son voyage. Tout le monde était déjà couché, mais il avait toujours sur lui une clé de la petite porte du parc. Il posa Pauline à terre et ouvrit cette porte. En reprenant Pauline dans ses bras, il sentit que son cœur battait et qu'elle avait une légère respiration. Allons, dit-il, elle n'est pas morte, et je suis payé de ma peine. Le mouvement de la marche avait effectivement ranimé les sens de Pauline, et lorsque Müller la déposa sur son lit, elle rouvrit les yeux, sans qu'il eût besoin de chercher des secours étrangers. Où suis-je? Dit-elle en portant autour d'elle des regards où se peignaient l'étonnement et la douleur. Dans un lieu que vous ne quitterez plus désormais, sans ma permission, lui répondit Müller d'un ton sévère. Quoi, c'est vous, Müller? Mais comment se fait-il? Comment il se fait? Mais c'est que je vous ai suivi, mademoiselle, et le ciel a permis que j'arrivasse assez à temps pour prévenir votre forfait. Mais me direz-vous à votre tour comment il se fait que vous ayez pu vous porter à un tel excès de démence? Mais quel espoir agitait donc votre esprit? Quel égarement troublait votre raison? Oh, vous vous taisez. Mais parlez, mademoiselle. Ce n'est pas par le silence que l'on s'excuse d'un pareil crime. Oui, d'un crime, je le répète. Et quel qu'en soit le motif, c'en est toujours un de se défaire de la vie. J'estime les malheureux qui supportent leurs maux avec courage, mais je méprise ceux qui s'en délivrent par une lâcheté. Pauline écoutait Müller attentivement. Son discours énergique fit sur elle l'effet qu'il en attendait. Il attendrit son âme et elle versa un torrent de larmes. Dès que Müller ne la vit pleurer, il sentit sa sévérité l'abandonner et s'approcha d'elle pour la consoler. « Alors, je vous pardonne, dit-il en lui prenant la main, mais c'est à une condition.
Quelle est-elle?
C'est que vous allez me dire le motif de votre désespoir, car enfin il faut bien qu'il y en ait un.
Non, ne me forcez pas à rougir devant vous par le récit de ma honte.
Mais il le faut, vous dis-je, malon, morbleu du courage.
Vous l'ordonnez? Oh mon Dieu, qu'il m'en coûte, eh bien...
« Achevez.
Je suis... »«
Vous êtes ?»«
Je suis enceinte. »
Müller n'est anéanti. Pauline se cache le visage dans ses mains. « Vous êtes enceinte ?» dit enfin Müller en sortant de sa stupéfaction. « Et vous vouliez vous donner la mort, malheureuse. Vous vouliez donc la donner aussi à l'innocente victime que vous portez dans votre sein ?» Oh, vous êtes bien plus coupable que je ne le pensais.
Mais je ne sens que trop mon crime. Mais hélas, cette malheureuse créature que j'aurais privée de la lumière, n'est-elle pas elle-même, avant sa naissance, vouée à la honte et au mépris? Enfant du crime et du malheur, osera-t-elle jamais nommer les auteurs de ses jours?
Mais que voulez-vous dire?
Mais faut-il donc vous apprendre quel est son père?
Quoi? Henri, mon élève? Oh, triple tonnerre! Oh, voilà qui me coule à fond! Je n'ai plus d'autre parti à prendre que d'aller me faire friser les épaules par un boulet de 48. L'aveu que Pauline venait de faire avait épuisé le reste de ses forces, et elle retomba sans connaissance sur son lit. Quant à Müller, ses esprits étaient trop frappés de ce qu'il venait d'apprendre pour qu'il fût en état de s'apercevoir de ce qui se passait autour de lui. Immobile devant la cheminée, il regardait sans voir, songeait sans penser, souffrait sans sentir, et la nuit s'écoula pour lui sans qu'il fût revenu de cette espèce d'anéantissement. Des coups redoublés, qui se firent entendre dans la porte du château, rappelèrent Müller à lui-même. Il se frotte les yeux, comme quelqu'un qui sort d'un songe pénible, regarde autour de lui d'un air surpris et aperçoit Pauline, qui était encore dans le même état. Cette vue lui rappelle tout ce qui s'est passé. Deux grosses larmes s'échappent de ses yeux. Il les essuie en soupirant, secoue la tête, relève sa moustache et descend l'escalier avec précipitation. On continuait de frapper avec violence. Le concierge s'habillait lentement. Müller, impatienté, va lui-même ouvrir la porte. Un courrier lui remet une lettre et s'éloigne rapidement en disant qu'il n'y a pas de réponse. Müller tenait la laine dans sa main et pensait à autre chose qu'à la lire. Lorsqu'en jetant les yeux sur l'adresse, il reconnut l'écriture de son colonel. « Oh, oh !» dit-il en se frottant encore les yeux pour s'assurer qu'il ne rêve pas. « Mais c'est bien de mon colonel, et la lettre m'est adressée. Et par quel hasard, sait-il que je suis dans le château ? Et cet animal de courrier qui est reparti comme une bombe, j'aurais dû l'interroger. Bon, allons, lisons. Je crois que je tremble pour la première fois de ma vie. Si mon colonel sait tout ce qui s'est passé, cette lettre est ma condamnation. N'importe, j'ai mérité d'être puni et j'aurai le courage de m'exécuter moi-même si mon colonel me l'ordonne. » En finissant ces paroles, Müller ouvre brusquement la lettre et en parcourt le contenu. Bientôt, un changement sensible s'opère sur son visage à mesure qu'il lit. Des larmes s'échappent des yeux du bon hussard. Mais ce sont des larmes de joie, de plaisir, d'attendrissement. À peine a-t-il achevé sa lecture, qu'il se précipite comme un fou vers l'escalier qui mène à l'appartement de Pauline. « Vivante victoire !» crie Müller en enjambant quatre à quatre les marches de l'escalier. Il arrive enfin dans la chambre de Pauline que sa femme de chambre avait fait revenir à elle. Elle regarde Müller avec étonnement. Elle ne comprend rien à cette joie extraordinaire. « Tenez, lisez, lisez vous-même, lui dit Müller en lui donnant la lettre qu'il vient de recevoir. Et vous verrez si j'ai tort d'être au comble de la joie. » Mais avant d'expliquer au lecteur le motif de la joie subite de Müller et le contenu de la lettre qui en est la cause, il faut rejoindre le colonel Framberg que nous avons laissé prêt à partir pour Paris. Le colonel avait écouté attentivement le récit que Henri lui avait fait des aventures de Dorméville. Son âme noble et généreuse conçut aussitôt le projet de se rendre à Paris et d'y faire toutes les démarches nécessaires afin de savoir ce qu'était devenu le père de son cher Henri. À la vérité, ce dernier avait déjà fait inutilement cette recherche. Mais Henri ne connaissait personne à Paris. Sa jeunesse, d'ailleurs, devait inspirer peu de confiance, et le colonel, au contraire, était d'un âge et d'un rang à commander le respect et l'estime, et il se fit donner des lettres pressantes par les hommes en place, et il espéra obtenir plus de succès dans son entreprise. Le colonel Framberg fit diligence, et à son arrivée à Paris, il se mit sur le champ en mesure pour commencer les recherches nécessaires et tâcher de savoir ce qu'était devenu Dorméville. Ses démarches eurent le plus gros succès. Le ministre apprit au colonel que celui qu'il cherchait était enfermé à la force, une des principales prisons de la capitale. Dorméville avait été arrêté à son arrivée à Paris, et la peine de mort à laquelle il avait été condamné avait été commuée en 10 années de prison, ce qui était déjà une grande faveur. Et comme les personnes qui en voulaient à Dorméville n'existaient plus, il espérait bientôt recouvrer sa liberté. Mais il aurait fallu que le prisonnier eût en France quelqu'un qui s'intéressât à lui et fît les démarches nécessaires pour son élargissement. Malheureusement, il n'y connaissait personne. Il aurait probablement passé en prison le temps qui lui était fixé, si le hasard ne lui eût envoyé un protecteur puissant dans la personne du colonel. Celui-ci s'occupa aussitôt de faire rendre la liberté à Dorméville, dont la faute n'avait pas été assez grave pour lui mériter tant de rigueur, et qui avait assez souffert par un exil de 20 ans. Les démarches que le colonel fut obligé de faire traînèrent plus en longueur qu'il ne l'aurait cru. On lui avait déjà accordé la permission de voir Dorméville, mais il ne voulait se présenter à lui qu'en lui apportant sa grâce. Quelle conduite généreuse envers un homme qui avait été son rival, qu'il avait privé de l'amour d'une femme qu'il adorait et qui allait encore lui enlever celui qu'il regardait comme son fils. Il existe peu d'hommes comme le colonel. Enfin, après plus de 3 mois passés dans des marches et en sollicitations, le colonel Framberg obtint la liberté du père de Henri. Quel moment pour son âme généreuse, avec quelle ivresse il se rendit à la prison. Le sentiment d'une bonne action le paya amplement de toutes les peines qu'il s'était données. D'Orbeville n'attendait plus sa grâce. Le malheureux, assis dans un coin de sa prison, pensait à sa Pauline. Le chagrin qu'elle devait éprouver augmentait la tristesse de sa situation. Et tout à coup, les portes de sa prison s'ouvrent. Un homme qu'il ne connaît pas, mais dont la figure annonce la bonté, se présente devant lui. Le lecteur se doute bien que c'est le colonel. Il se jette en entrant dans les bras de Dorméville. Celui-ci, étonné, ne sait que penser de tout ce qu'il voit. « Embrassons-nous d'abord, lui dit le colonel, nous ferons connaissance après. En attendant, voici votre liberté. Je suis le colonel Framberg, et c'est moi qui l'ai obtenu. » Dorméville ne sait s'il est bien réveillé. Le nom du colonel, le mot de liberté, le frappe au point de le rendre immobile. Mais le colonel, qui s'est attendu à sa surprise, l'entraîne hors de la prison, le fait monter avec lui dans sa voiture et se fait conduire à l'hôtel qu'il habite. Pendant le chemin, Dorméville revient à lui. « Mais ce n'est point un songe, dit-il. Je suis en liberté, c'est à vous, monsieur le colonel, à vous que je la dois. Mais je conçois votre étonnement, mon cher Dorméville, et je vais le faire cesser, mais comme le récit que j'ai à vous faire est un peu long, attendons que nous soyons rendus à mon hôtel, nous pourrons y causer sans être interrompus. » Dorméville y consent. Ils arrivent enfin. Le colonel fait défendre qu'on les interrompt et raconte à Dorméville tous les événements que nous avons déjà rapportés. Qui pourrait peindre l'étonnement de Dorméville en apprenant que son fils existe et qu'il va bientôt l'embrasser? Oh, sa joie tient du délire! Il se jette dans les bras du colonel en le nommant son Dieu tutélaire. Et tout d'un coup, il s'arrête et réfléchit profondément. « Qu'avez-vous, lui, dit le colonel, d'où naît votre étonnement ?»« Mais auriez-vous un autre fils, lui dit Dorméville. »« Oh non, je n'ai jamais eu que Henri, qui m'en a tenu fieux. »« Henri, mais plus de doute, c'est lui. »« Mais que voulez-vous dire ?» Je connais ce fils adoré, et le ciel l'a choisi pour me sauver l'existence. Se pourrait-il, Henri vous a sauvé la vie? Oui, dans une forêt à 6 lieues de Strasbourg, j'allais être la victime de 2 assassins lorsque la Providence m'a envoyé mon fils pour me sauver la vie. Dorméville était effectivement ce voyageur que Henri avait sauvé. Le colonel Framberg admira les décrets de la Providence qui avait envoyé le fils au secours du père. Ensuite, il continua son récit que Dorméville avait interrompu par ses exclamations. Lorsque ce dernier apprit les amours de Pauline et de Henri et le chagrin que le colonel éprouvait de cette fatale passion, il l'interrompit en lui disant « Séchez vos pleurs, mon ami. Nos enfants seront rendus au bonheur et à l'amour. Apprenez enfin que Pauline n'est pas ma fille. Elle n'est pas votre fille !» s'écrie le colonel, ivre de joie. Oh, pour le coup, j'en perds la tête, ces chers enfants, ils ont eu tant de chagrin. Je n'ose encore croire à ce bonheur. Oui, c'est la vérité, mais je conçois qu'elle a besoin d'explications. Écoutez-moi, et je vais à mon tour vous faire le récit de tous les événements qui me sont arrivés depuis le moment où je me séparais de celle que je comptais nommer mon épouse. Histoire de Dorméville. En quittant ma chère Clémentine, je me rendis à Vienne pour y offrir mes services à l'empereur. La guerre était déclarée entre la Russie et l'Autriche. Je n'eus pas de peine à me faire agréer, et en considération de ma bonne volonté et de ma naissance, je fus bientôt lieutenant dans un régiment de hussards qui allait se mettre en campagne. Je partis avec ma compagnie. Nous rencontrâmes l'ennemi près d'un village entre Novogrodek et Vilna. La bataille fut sanglante et les Russes furent défaits, comme je l'appris par la suite. Car ayant reçu un coup de feu au commencement de l'action, je tombai de cheval et fus laissé pour mort sur le champ de bataille. Un paysan, qui passa près de moi longtemps après que les deux armées furent éloignées, s'aperçut que je respirais encore. Il eut l'humanité de me charger sur son dos et de me porter dans sa chaumière afin de m'y donner tous les secours que réclamait ma situation. Je restai près d'un an chez ce bon villageois, car ce ne fut qu'au bout de ce temps que mes blessures, parfaitement guéries, me permirent de songer à regagner mes drapeaux. Mais pendant ma longue maladie, les hasards de la guerre avaient rendu les Russes maîtres du lieu où j'étais caché. Ils avaient établi des postes dans tous les endroits qu'il m'aurait fallu traverser pour retourner en Autriche, et je vis que je ne pouvais quitter le village où j'étais sans m'exposer à des dangers presque inévitables. Que pouvais-je faire? Ma situation était affreuse. Je ne possédais pas la plus petite somme d'argent. Je ne voulais pas être plus longtemps à la charge du brave homme qui m'avait conservé la vie. Je n'avais qu'un parti à prendre, celui de travailler pour vivre. Et je m'y décidai promptement. Le bon paysan qui m'avait secouru me trouva de l'ouvrage chez un fermier des environs. J'endossai l'habit qui convenait à mon nouvel état et je me mis à travailler à cette terre qui n'est jamais ingrate envers ceux qui l'arrosent de leur sueur. Je vivais assez tranquillement depuis longtemps. Je m'étais accoutumé à ma nouvelle existence. D'ailleurs, le souvenir de ma Clémentine et l'espoir de la revoir un jour me faisaient supporter avec courage la longueur de mon exil. Vous savez qu'en venant en Allemagne, je quittais le nom de Dorméville pour prendre celui de Christiane, et j'avais conservé ce nom dans l'endroit où j'étais. À une demi-lieue de la ferme que j'habitais était un petit château appartenant à un nommé Drogluski. Ce Drogluski n'était pas aimé dans les environs et il circulait même sur son compte différents bruits auxquels je faisais peu attention. Comme son château était sur une élévation d'où l'on découvrait tous les pays d'alentour, lorsque mes travaux me le permettaient, je dirigeais mes pas de ce côté et, tournant mes regards vers les lieux qui étaient embellis par ma chère Clémentine, je demandais au ciel qu'il me permît bientôt de revoir celle que j'adorais. J'avais remarqué dans mes promenades solitaires un homme que je rencontrais souvent sur mon passage et qui paraissait m'examiner attentivement. Je n'y fis d'abord pas grande attention, mais cependant, impatienté de voir toujours cet homme sur mes pas, je demandai au fermier s'il le connaissait sur le portrait que je lui en fis. Il me dit que ce ne pouvait être que le confident et le domestique de M. Gdorluski, et que même il se rappelait que cet homme était venu à la ferme et m'avait fait diverses questions à mon sujet. Curieux de savoir ce qu'il pouvait me vouloir, je résolus de lui parler la première fois que je le rencontrerai. L'occasion ne tarda pas à se présenter et quelques jours s'étaient à peine écoulés que, me trouvant un soir aux environs du château, je vis mon homme à deux pas de moi. Je l'abordai et lui dis que j'étais très étonné de le rencontrer sans cesse sur mes pas et que je priais de m'en expliquer le motif. « Vous le saurez, » me répondit-il d'une voix sombre. Mais comme ce que j'ai à vous dire est très important, rendez-vous ce soir à minuit en ces lieux. Nous ne craindrons pas d'être surpris et vous y apprendrez ce qui vous intéresse. Mais pourquoi pas tout de suite, lui dis-je, surpris du ton avec lequel il me parlait. Non, répondit-il, à minuit vous saurez tout. Mais n'y manquez pas, il y va de votre vie. Il s'éloigna en disant ces mots et me laissa dans un étonnement que je ne puis vous dépeindre. « Serais-je découvert, me dis-je lorsque je fus seul, dois-je aller à ce rendez-vous ? » Je balançais longtemps, Mais enfin, réfléchissant qu'il m'avait dit que ma vie en dépendait, je présumais qu'il voulait me livrer que dans le cas où je lui manquerais de parole. Et je résolus d'être exact à l'heure indiquée. À minuit, j'étais au pied-dit à 100 pas du château. Je ne tardais pas à voir mon homme s'avancer vers moi. Il me mena sur un banc au pied d'un arbre et me tint ce discours. « Vous êtes autrichien, et par conséquent en guerre avec les Russes. Vous n'avez pas le sou et vous n'attendez qu'une occasion favorable pour retourner dans votre patrie. Si vous étiez reconnu, vous seriez sur le champ mis à mort. Et je puis, moi, vous livrer à vos ennemis et vous faire conduire au trépas. Et c'est ce que je ferai. » Si vous ne consentez pas à ce que je vais vous proposer. » Je vis que j'avais affaire à un scélérat, mais ma vie était entre ses mains, et il fallait dissimuler. « Qu'exigez-vous de moi ?» lui dis-je. « Le voici, » me répondit-il. « Il existe dans ce château que vous voyez devant vous un enfant de 3 à 4 ans. Son existence contrarie diverses personnes. Nous avons pu lui donner la mort nous-mêmes, mais j'ai jeté les yeux sur vous, parce que ce meurtre, commis dans le château, aurait peut-être donné des soupçons. Je frémis d'horreur à ce discours, mais je cachai mon indignation, et le scélérat continua. Il est inutile que vous connaissiez les motifs de cette vengeance. Je vous engage même à ne jamais vous en informer. Car cette curiosité vous coûterait la vie. Et si, dans quelques années, vous étiez tenté de revenir dans ce pays, car je présume que vous retournerez en Autriche dès que la paix sera faite, je vous préviens que vous feriez une démarche inutile, car ce château sera abandonné et vous n'y trouverez plus personne. Alors décidez-vous et voyez si vous voulez faire ce que j'exige de vous. Vous en serez récompensé largement. Si vous refusez, au contraire, je vais vous dénoncer aux Russes qui occupent ce pays et je ne pourrai échapper à la mort. Il n'y a pas à balancer, lui dis-je, j'accepte. C'est fort bien, en ce cas, suivez-moi, je vais vous livrer l'enfant. Quoi, sur le champ? Sans doute, le plus tôt sera le mieux. Je suivis en frémissant le scélérat qui me jugeait capable de seconder son odieux projet. Il me conduisit dans l'intérieur du château. Un silence profond y régnait. Arrivé dans une salle basse, il me laissa en me disant d'attendre son retour. Je restai seul quelques minutes. J'écoutais attentivement si je n'entendais rien qui pût m'instruire. Mais un calme profond et extraordinaire me fit juger que l'homme qui m'avait introduit l'habitait seul. Et j'avoue qu'alors je formais le projet de délivrer la terre de ce monstre et de sauver son innocente victime. Mais je fus trompé dans mon espoir. Mon homme revint tenant un enfant dans ses bras. Il était suivi d'un autre personnage qui était masqué et qui me regardait sans parler. « Tiens, voilà l'enfant et une bourse pleine d'or. » me dit mon premier introducteur. « Tu sais ce que tu as à faire, et va, sors de ce château. Et songe bien que si tu n'exécutes pas nos ordres, la mort suivra de près la trahison. » Je ne répondis rien, je pris l'enfant et la bourse, et mon homme m'accompagna jusqu'à la porte du château. Là, après avoir renouvelé ses menaces, il me quitta et je me vis seul avec l'enfant. « Pauvre petite, » dis-je en l'examinant, car je vis que c'était une petite fille qui pouvait avoir tout au plus 4 ans. « Oh, dût-je y perdre la vie, je te sauverai de la fureur de tes ennemis. » Et bon parti fut bientôt pris. Si je restais dans ce village, je devais m'attendre à y être arrêté. Je résolus donc de chercher un autre asile. À la vérité, je pouvais aussi être pris en fuyant, mais je pensais que le ciel protégerait mon action, et cet espoir me donna du courage. Effectivement, je fis plusieurs lieues sans aucun danger, et je parvins enfin à une immense forêt où je pensais que je ferais bien de rester caché quelque temps. Le pauvre enfant que le ciel m'avait confié était l'objet de ma plus tendre sollicitude. Hélas, privé de tout, j'étais obligé de lui faire chaque soir un berceau avec des branches d'arbres. Et le matin, avant qu'elle ne fût réveillée, je me rendais en tremblant à la chaumière d'un paysan et j'y achetais les provisions nécessaires à notre existence. Et la petite, par ses innocentes caresses, me faisait oublier mes maux. Elle m'appelait son père, et je résolus de lui en tenir lieu. Je la nommais Pauline, et je souhaitais qu'avec un nom français, elle eût aussi la gaieté et la grâce des femmes de mon pays. Enfin, je reçus la récompense qui suit toujours une bonne action. 15 jours s'étaient à peine écoulés depuis que nous habitions la forêt, lorsque j'appris que les Autrichiens s'avançaient à marche forcée vers l'endroit où j'étais réfugié. Les Russes fuyaient devant les vainqueurs, et je me vis bientôt au milieu de mes camarades. Je repris dans les rangs le grade que j'y occupais. Même ma petite Pauline m'embarrassait beaucoup. Lorsque le hasard me fit connaître la respectable Madame Reichstadt, elle avait suivi son fils à l'armée. Il avait été tué, elle était livrée au plus profond désespoir. Je lui proposai de servir de mère à Pauline, que je lui dis être ma fille. Elle y consentit avec joie et partit pour Offenbourg, devant se loger aux environs. Je comptais aller la rejoindre au bout de peu de temps, et j'espérais revoir aussi ma Clémentine. Mais hélas, un officier qui avait passé près du château de Framberg m'apprit que celle que j'adorais, ayant cru mort comme tout le monde, avait épousé le colonel Framberg, qu'elle en avait eu un fils et après quelques années de mariage, elle venait de perdre la vie. Cette nouvelle anéantit tous mes projets de bonheur. Je ne songeais plus qu'à mourir pour rejoindre ma Clémentine. Plusieurs batailles se livrèrent, je cherchais la mort dans les rangs ennemis, mais elle fut sourde à mes voeux. Je n'y trouvais que la gloire. Je fus fait capitaine, et le temps, ainsi que le souvenir de ma petite Pauline, parvinrent enfin à calmer mon désespoir. Je venais passer tous mes quartiers d'hiver auprès de celle qui me croyait son père, et je me gardais bien de lui apprendre le contraire, afin de lui éviter des chagrins qui n'auraient fait que répandre une teinte sombre sur les beaux jours de sa jeunesse. J'étais aussi heureux que je pouvais l'être. Je regardais Pauline comme ma fille, et jamais il ne me vint dans l'idée que le fruit de mes amours avec Clémentine pouvait être ce Henri de Framberg, que chacun nommait votre fils. Le désir de revoir ma patrie va enfin troubler ma tranquillité. Vous savez le reste, monsieur le colonel, mais je ne puis assez vous exprimer toute la reconnaissance que je vous dois.